Renault propose l'entretien de ma Renault à partir d'un euro par jour. Donner de l'argent pour éviter de donner de l'argent, quel intérêt? Et puis, je réfléchis. Un euro par jour pour bénéficier de la révision constructeur et de l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un bon investissement. Contrat entretien privilège Renault Car Service à partir d'un euro par jour. Décidément, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault?
Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2026. Offre réservée aux particuliers, conditions et rendez-vous sur Renault.fr ou sur l'appli MyRenault. Source l'Automobile Magazine 2025.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi dans une ville célèbre pour son jambon, bien avant de vous décider à raconter sur scène des tranches de vie. Vous êtes arrivé en France sans parler un seul mot de notre langue, et cela aussi vous le racontez avec l'accent de la sincérité. Bonjour Roberta Ketchin. Alors on dit Ketchin ?
Non, on dit Check-in.
Check-in, voyez.
Mais ça va, déjà Roberta, vous l'avez bien prononcé, comme ça c'est déjà
check-in,
bien.
Check-in, voilà. Oui, c'est facile, on pense à check. Alors,
exactement.
Il se trouve que vous avez un parcours tout à fait étonnant. Vous allez fêter le jumelage Paris-Rome au grand point virgule dans quelques jours, mais vous avez ce parcours tout à fait atypique dans l'univers de l'humour, qu'on va évoquer à travers des dates clés. Alors j'ai trouvé bien sûr des dates sur votre parcours, et la première que j'ai trouvée, c'est le 15 avril 1990, ce sont les fêtes de Pâques que vous passez dans un lycée de Leningrad.
Oui, vous êtes allé bien loin, j'ai vu. Oui, c'est vrai que... alors moi je suis la troisième, on est trois enfants. Toi, j'ai un frère et une sœur, et j'étais la plus petite. C'était difficile d'avoir de l'argent pour travailler, voyager. Et alors, je faisais tout ce que je pouvais pour voyager. J'ai fait un cours de russe, et j'avais gagné une bourse. Et pour faire 2 mois à Leningrad, ça s'appelait encore comme ça, maintenant oui. C'est Saint-Pétersbourg. Et oui, j'ai passé 2 mois à Leningrad et j'avais étudié le russe pour 2 ans.
Voilà. Il se trouve que Pâques, c'est la fête la plus importante en Russie. Elle est fêtée chaque année avec des tables garnies, beaucoup plus que les autres jours de l'année. C'est vraiment le jour le plus important de l'année.
Oui, il y a vraiment beaucoup de... Alors moi j'étais chez une famille en plus, et comme ça ils avaient organisé. C'était une famille qui avait la toilette partagée avec des autres familles. C'était très bizarre pour moi cette rencontre de cette culture. Et ils avaient créé effectivement. Moi j'étais un peu l'événement de tous les meubles, et on avait fait une grande table partagée. Oui.
En plus, vous êtes arrivé quelques mois après la chute du mur de Berlin.
Oui, j'avais eu un vade-mecum de toutes les choses que je devais faire et pas faire.
Oui.
Et bien évidemment, j'ai fait pas tout ce que je devais faire. J'ai risqué aussi d'être arrêté par la police.
Pourquoi ?
Car j'avais, ils m'avaient fait boire de la vodka, bien évidemment, mes amis.
Oui.
Et j'étais pas habituée du tout. J'avais pas encore 18 ans. Et j'ai monté dans la statue de Pietro il Grande. Il y a un grand statue.
Pierre
avec,
Grand, oui.
Oui, c'est ça. Et quand ils m'ont vu, les autres amis qui étaient avec moi, ils m'ont dit, mais tu es fou pour une chose comme ça, ici, on va à la prison. J'ai dit, oh waouh. Je savais pas. Oui, j'étais pas. Maintenant, je suis beaucoup plus disciplinée. Je vais pas faire rien avec les monuments français. Oui.
C'est important. Alors, vous êtes né à Mantoue. Mantoue, il faut savoir que c'est la ville que le ministère de la Culture italienne a donné le titre de capitale italienne de la culture.
Oui, ça a été plusieurs fois, effectivement, dans ces contextes, car Mantoue, c'était le nombril d'Europe, on disait. La ville de Gonzaga, il a eu effectivement un développement très, très fort dans la culture, grâce à Isabella d'Este. Et après la guerre, c'est devenu un peu plus difficile d'y aller, mais ça reste vraiment une perle culturelle.
Oui, parce qu'il y a Toscanini et Verdi qui sont originaires de Mantoue.
Dans cette zone là, et après on a eu aussi Mozart qui est venu jouer chez nous. Voilà.
Alors il y a ensuite Parme à 18 ans. Parme, je crois que c'est la ville de votre mère.
Oui, elle est la città de la mia mamma.
Ouais. Alors, il se trouve que Parme, en même temps, quand on pense à Parme, on pense au jambon, un peu tout ce qui tourne autour. C'est la vérité ou c'est une légende?
Oui, oui, nous on pense. Alors déjà en Italie, on pense toujours à manger, mais à Parme en particulier, c'est il a obtenu effectivement, reconnue comme la capitale de la gastronomie en Italie. Il y a le jambon de Parme, il y a le parmigiano, et après il y a beaucoup de beurre. C'est très lié à la France, Parme.
Voilà. Et en même temps, c'est une ville qui est importante. Je crois que le saint patron de Parme est important.
Sant'Ilario. Oui, 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 c'est con la scarpetta di Sant'Ilario. C'était quelqu'un qui avait. La scarpetta, c'est la petite chaussure.
Oui.
En Italie, mais un peu en France aussi, mais surtout en Italie, chaque fois qu'il y a un saint patron d'une ville, on a toujours quelque chose à manger avec. Et Sant'Ilario, il avait donné ses chaussures à des pauvres, et c'est pour ça qu'il y a la scarpetta di Sant'Ilario.
Les saints patrons sont très importants en Italie, je crois.
Oui, c'est très important et c'est quelque chose que j'adore découvrir quand je joue dans certaines villes en France, car il dit beaucoup de l'histoire d'une ville, les Saint-Patrons.
Oui, mais beaucoup plus en Italie qu'en France d'ailleurs, on s'y intéresse beaucoup plus.
Oui, c'est beaucoup plus lié qu'en France, après ça dépend de certaines villes, mais c'est un peu, on a une culture beaucoup plus catholique que la France.
Et puis alors, vous avez aussi rétabli des vérités, et notamment sur cette chanson.
Una mattina mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Alors, cette chanson que tout le monde chante aujourd'hui, Yves Montand était le premier à la créer en France parce que ses parents étaient communistes et ils chantaient cette chanson en Italie avant de quitter le pays.
Oui, c'est une chanson qui s'est devenue effectivement un hymne des partigiani, des partisans pour la libération de l'Italie. C'est une chanson qui au début c'était pour les mondines, les personnes qui travaillaient dans les champs. Et c'est vrai que souvent, grâce aussi ou à cause de la Casa de Papel, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elle est espagnole. Oui. Et surtout, parfois on l'entend dans des discothèques.
Ah, tout le personnes, temps.
Tout le temps.
Et tous les étés, dans les discothèques, on entend et on danse sur Bella Ciao.
Oui, après, c'est pas un problème de danser sur Bella Ciao, mais c'est vrai que c'est une chanson que pour nous, c'est une chanson triste, très liée vraiment à notre histoire. Et comme ça, parfois, je cherche aussi de faire comprendre que c'est pas vraiment une chanson sur laquelle danser sans comprendre ce qu'on est en train d'écouter.
Voilà, mais en même temps, on écoute la musique, on danse, on n'entend pas les paroles.
Oui.
Alors, je crois qu'au départ, votre univers n'a rien à voir avec la chanson Roberta Cecchini, c'est-à-dire que vous avez fait des études scientifiques en Italie.
Oui, j'ai fait une école de commerce, mais avec effectivement une spécialisation quantitative. Je suis une experte de la statistique.
Voilà. Et puis vous avez fait non seulement en Italie, mais au Pays de Galles. Vous êtes allé à Cardiff faire des études à l'université. C'est pas si fréquent.
C'était un des premières années du programme Erasmus. On est en train de parler de le siècle dernier, oui. Car oui, je suis plus, c'est pour dire, j'ai après la Russie, le deuxième étape, c'était effectivement Cardiff, et j'ai fait 9 mois d'université là-bas.
En fait, Erasmus, c'est un programme de référence qui permet à des Européens de partir à l'étranger pour étudier.
Oui, et ça a commencé en 1989. Et moi, en 90, et moi, j'étais en 1993.
Voilà. Et c'est une aide pour permettre, justement, d'aller étudier. Qu'est-ce que vous étudiez, justement, au Pays de Galles, à Cardiff?
C'était toujours dans le contexte de l'université de l'école de commerce. Et j'avais certains cours qui c'est les mêmes qu'on avait en Italie. Et j'ai fait des examens là-bas. Mais c'est vrai que chaque fois que je pouvais avoir l'occasion de voyager, je le prenais.
En même temps, vous devenez une spécialiste du marketing et vous faites de l'économie quantitative.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, principalement, c'est que c'est tout ce que c'est la statistique et la mathématique appliquée au marketing. Et au marketing, en réalité, avant, j'étais spécialisée dans le système de qualité. Ça, c'est quelque chose avec l'industrie. C'est un peu bizarre de parler de ça, car comme vous voyez, il n'a rien à voir avec ce que j'ai fait maintenant, mais bof.
Voilà, mais en même temps, vous avez travaillé dans une banque, ce que vous n'auriez jamais imaginé.
Oui, quand je me suis diplômée à l'université, je me suis diplômée très vite avec honneur, on dit comme ça. Je suis allée toujours un peu vite dans ma vie. Et j'avais toutes les banques qui m'appelaient et moi je disais non, je ne veux pas rentrer dans une banque. J'ai commencé effectivement à travailler dans l'industrie. Et après, c'est vrai qu'il y a eu un moment que le directeur de l'université m'a appelé pour une poste particulière et m'a dit « Robert, allez-y, allez-y ». Écoutez pour une fois, parfois je n'écoute pas, et après j'ai fait l'entretien avec la banque et je suis encore là.
Et vous avez passé 15 ans dans une banque à travailler, même pour le Crédit Agricole en Italie notamment.
Oui, oui, maintenant c'est presque 29 ans que je travaille dans cette... Oui,
vous avez créé des choses, c'est-à-dire que vous avez créé les premières bases de données clients qui existent dans toutes les banques aujourd'hui, à l'époque où ça n'existait pas.
Oui, exactement. À l'époque, si vous avez un crédit immobilier avec votre femme et votre femme avait un compte et vous avez un compte, c'était considéré comme 3 clients. pas oui. de clients. Et c'est vrai que j'ai créé tout ça. J'ai toujours adoré créer des choses.
Oui, mais en même temps, c'est devenu quelque chose dans le monde entier, ça.
Oui, ça a été. Ben, ces moments-là, effectivement, j'ai été connue à niveau européen pour mes sujets sur la banque.
C'est-à-dire que vous avez été une experte sur les au niveau européen et vous êtes intervenue dans les séminaires même.
Oui, j'ai fait beaucoup. J'ai tenu des cours à l'université à Berlin, à Londres, un peu dans toute l'Europe.
Mais c'était des choses très très sérieuses, ça, très compliquées.
Oui, bah pour moi c'était pas trop compliqué, car c'était quelque chose que c'était un peu dans ma façon de réfléchir et comme ça. Et ce qui avait, c'était ma force, c'est effectivement de traduire en façon très simple des choses très compliquées.
Oui, et en même temps, ces séminaires, il y avait toujours beaucoup d'humour.
J'utilisais l'humour pour, quand on parle de choses aussi complexes, il faut réveiller un peu l'attention des personnes. J'ai toujours utilisé l'humour, les émotions, pour sédimenter les choses que je disais et aussi pour garder et réveiller la platée.
Alors je crois qu'en 2012, il y a une présentation à l'association bancaire italienne et que c'est un déclic, car à la fin, on va vous dire « Mais pourquoi tu ne fais pas du spectacle ?»
Alors, bah, je vois que vous, Jacques, vous allez vraiment bien dans les détails. C'est exactement ça, c'est arrivé. J'ai tenu une conférence pour l'Association bancaire italienne, l'Association des banques, et tout le monde était épaté de ma présence sur scène. Et tout le monde m'a félicité. Au début, je pensais qu'ils m'avaient dit, ah oui, tu devrais être le directeur marketing d'Europe, de ça. Et tout le monde me disait, tu devrais faire des spectacles. Et au début, c'était un peu bizarre pour moi, car j'avais jamais pensé à ça.
Et finalement, vous y avez pensé. Et puis, il y a eu d'autres moments où c'est allé encore plus loin. Et il y a une date importante aussi dans votre parcours, c'est le 1er juin 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Roberta Check-in.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roberta Check-in. Alors, vous êtes italienne, je dis bien cette fois-ci. Hein,
oui, bravissimo.
Vous êtes italienne, vous êtes arrivée en France après un parcours tout à fait étonnant dans la banque et vous êtes aujourd'hui dans l'humour. Le 9 avril 2026, il y a un jumelage Paris-Rome au grand point virgule, on va en parler. Mais on en revient à votre parcours. Donc, on vous a laissé en Italie, en train de donner des conférences très sérieuses sur le marketing et sur les données dans les banques. Et puis, le 1er juin 2014, vous arrivez en France et vous commencez à travailler le 2 juin, jour férié en Italie.
Oui, ça c'était étonnant pour moi qu'effectivement, le premier jour de travail en France, c'était un jour qu'on ne travaille pas en Italie.
Pourquoi ?
C'est la fête de la République, le 2 juin. Comme ça, c'est normal qu'il n'y ait pas une fête en France. Mais ce qui m'a étonné, qu'après une semaine, il y avait une fête religieuse en France, le 9 juin, c'était 2014.
Oui.
Oui, la Pentecôte. Et je découvre qu'en France, on fête de fêtes religieuses qu'on ne fêtait pas en Italie. C'était le premier choc culturel.
Alors, vous arrivez en France, Roberta Check-in, parce qu'il y a une réorganisation à la banque en 2014. On vous propose de monter en grade ce que vous ne voulez pas.
Oui, c'était monter en grade sur des thématiques que je n'aimais pas trop. Et vu que tout le monde me disait, ah non, tout est trop important sur tes sujets, on peut pas te les faire changer. Le moment qu'ils m'ont dit que je pouvais changer, j'ai dit, bah, alors, je voudrais faire une expérience à l'étranger.
Donc, vous avez dit, je veux aller ailleurs, n'importe où.
Exactement.
N'importe quel pays, vous convenez.
Oui, au début, j'avais pensé à la Serbie, car j'ai parlé anglais et pas français.
Oui.
Et après, il y avait un besoin, effectivement, chez la banque en France. Et j'ai appris le français. Je me suis mis en façon de pouvoir communiquer en 2 mois, plus ou moins.
Oui, parce que vous avez appris le français en combien de temps?
Alors, il faut dire que je pense que je suis en train encore d'apprendre le français.
Oui.
Vous entendez que mon accent est encore très fort.
On comprend parfaitement.
Et oui, je me suis préparée 2 mois pour plutôt arriver à m'exprimer un petit peu. Comme ça, j'avais commencé en avril à étudier un peu le français. Je suis arrivée en juin. Et après, j'ai mis 6 mois à être vraiment un peu vraiment compréhensible.
Mais comment on apprend le français en 2 mois? Il y a des méthodes? Il y a quelque chose?
Alors, déjà, le français, c'est pas le polonais, heureusement.
Ouais.
On a des racines de mots très, très similaires du latin, latin vulgaire. Et j'avais un ami qui m'a vraiment préparé, qui était une prof de français. Et m'avait fait, vraiment, j'ai communiqué vraiment en faisant simple. J'utilisais beaucoup GV pour dire le futur et des structures. Et comme ça, il y a effectivement des façons d'apprendre une langue pour avoir les bases pour communiquer.
Voilà, parce qu'effectivement, vous arrivez en France. En fait, vous arrivez en France parce qu'on vous propose une place à la banque dans des sujets liés à l'acquisition client.
Oui, à la conquête.
C'est quoi ça?
C'est la conquête. En réalité, là, c'était pour une banque. Pour, effectivement, ils avaient des problématiques pour réussir à conquérir certains targets des clients.
Oui.
Et moi, j'étais un expert aussi sur la conquête et aussi pour la fidélisation des clients. Et j'ai amené effectivement de valeur ajoutée. C'est pour ça que peut-être je suis encore là.
En même temps, vous arrivez, vous pensez que l'anglais va vous sauver, alors que le français, vous ne le parlez pas parfaitement.
Oui, j'ai pensé de pouvoir parler anglais. C'était pas le cas, je me suis rendu compte parce que quand je suis arrivée déjà à l'aéroport à Charles de Gaulle, on est en train de parler de 2014. Hein.
Oui.
Maintenant, beaucoup plus de monde parle anglais.
Oui.
Et ça m'énerve aussi le fait que parfois je parle français et les personnes maintenant me répondent en anglais. Et pas du tout, c'était pas possible de parler en anglais. Mais c'est vrai que c'est facile de s'exprimer entre italien et français. C'était l'écriture que c'était beaucoup plus difficile.
En même temps, vous avez chaque jour des situations qui vont devenir très complexes.
Oui, c'était chaque jour, je vivais des situations un peu bizarres ou très drôles entre mon français, qui n'était pas vraiment un bon français, et la culture, les chocs culturels et les habitudes différentes.
Vous avez des souvenirs précis en la matière, des moments gênants?
Bah oui, j'ai dit des choses gênantes pendant des réunions parfois,
oui.
Et moi j'avais dit, bah, je sais pas si je peux le dire à la radio.
On peut tout dire.
On peut tout dire. Alors, la
on
première.
Parlons vrai ici.
Ok. Alors j'ai le premier comité de pilotage, c'était début juillet, j'arrivais de deux semaines. J'ai dû faire la queue dans la métro car moi j'avais fait un Navigo mensuel à mi-juin.
Oui.
Pour moi mensuel ça voulait dire que c'est tout le mois.
Oui.
Et je suis arrivée, j'ai dû faire la bise. Le problème c'est que dans mon français ces moments-là, je suis rentrée dans un comité de direction en disant désolé pour le retard, mais pour le pass Navigo j'ai dû faire 15 minutes de queue dans le métro et après je suis arrivée ici et j'ai mis du temps à baiser tout le monde.
Voilà.
Alors désolé pour les mots, mais moi, c'était vraiment avec tous les innocents.
Oui.
Et là, tout le comité de direction était en train de rigoler, il n'arrêtait pas. Et ça, c'était quelque chose qui m'arrivait tout le temps.
Oui.
Des situations que moi, je disais quelque chose, tout le monde rigolait. Et moi, je me demandais qu'est-ce que j'avais dit.
Alors, il y avait aussi une tradition qui était évoquée par une chanson de Holdelaf, une chanson, Holdelaf est un rocker français, cette chanson, il termine tous ses spectacles et tous les enfants de France la connaissent.
La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café, ma secrétaire entre...
Le café, une chanson totalement délirante, passionnante, et je crois que, bon, il y a une caméra café à la télévision, et tous les lundis matin, à la machine à café, on vous interpelle, Roberta Tchekin.
Oui, elle me disait, désolé, je suis en train de... c'était génial, j'avais des collègues fantastiques qui m'ont dit, tous les matins, m'attendaient pour dire qu'est-ce qu'il a fait une Roberta Parigi. J'étais aussi en façon de m'intégrer et j'ai raconté tous les aventures, les misaventures. Et il y a eu un moment qu'il y avait presque 30 personnes qui m'attendaient le lundi matin. Et c'est pour ça que finalement, je faisais des pauses café avec tous les départements. Et j'ai raconté mes aventures. Et c'est né là, le personnage une Roberta Parigi.
Exactement. Il faut savoir que dans les entreprises, on ne sait pas, la loi prévoit que l'eau est obligatoire, mais le café n'est pas obligatoire, on n'est pas forcé de mettre une machine à café, sauf alors, dans des postes en plein air exposés aux intempéries et à une altitude dépassant 1000 mètres.
Ça, on c'est va la parler loi. Des choses,
ouais.
C'est bien.
Mais personne ne respecte cette loi. Donc finalement, petit à petit, vous commencez, mine de rien, à écrire des sketchs.
Sans le savoir, oui.
Voilà.
Car ce que c'était vrai, c'est que vous, que tout le monde voulait écouter ce que j'ai raconté. Le lundi, j'ai raconté une histoire. Le mardi, je l'ai raconté à notre département. Et entre le lundi et le vendredi, j'améliorais mon français et aussi ce que j'ai raconté. Et comme ça, finalement, j'ai commencé sans savoir une parcours d'écriture des sketchs.
Voilà. Et Roberta Tchekin, je crois qu'ensuite, vous avez intégré une structure internationale. Il y avait du marketing avec plusieurs pays.
Oui, j'ai géré le marketing pour 8 pays. Le Maroc, l'Italie, la Pologne, l'Ukraine, la Serbie, la Roumanie, effectivement, c'était très intéressant.
En même temps, le marketing était une notion nouvelle à l'époque. On n'en parlait pas, c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui.
Bah oui, c'était sur la stratégie et comme ça, mais c'est vrai que ce qui m'a appris ces moments-là, c'était vraiment cette observation de cultures différentes et l'attention à les cultures différentes. Car travailler avec un Polonais, c'est pas la même chose que travailler avec quelqu'un du Maroc ou de l'Égypte.
Et vous pensiez à l'époque continuer votre carrière comme ça sans problème?
Ah oui, oui, j'étais très contente de faire cette expérience. J'utilisais plus l'anglais que le français. Et ah non, c'était un... Moi j'ai adoré.
Et puis un soir, je crois que c'est un tournant, vous allez voir un spectacle d'Olivier Giraud, qui est un spectacle étonnant d'ailleurs, qui dure à Paris depuis des années.
Oui.
C'est How to Become Parisian in One Hour, c'est-à-dire en fait, c'est un spectacle en anglais qui se moque des Français.
Se moque des Parisiens,
voilà.
Pas de tout le monde, mais vraiment, se moque beaucoup des Parisiens, oui.
Et ce spectacle, vous l'avez vu 4 fois, je crois.
C'était la 4e fois que je le voyais, effectivement, car quand on arrive à Paris, effectivement, bah là, je ne parlais pas français au début, comme ça, c'était un spectacle en anglais très basique. Et après, c'est un spectacle qui, quand on a quelqu'un qui vient à Paris, c'est vrai que c'est une des choses qu'on fait.
C'est un spectacle qui a fait 800 000 spectateurs, sans publicité, sans rien, comme ça, par le bouche à oreille.
Oui, je peux dire aussi que quand la reine Elisabeth est venue en France, Olivier, c'est une des personnes à qui a donné la main. C'est pour dire qu'effectivement, on le voit comme ça, très, très humble et avec cette histoire, mais c'est vrai que c'est connu dans le monde.
Et un soir, vous décidez de lui amener quelques amis italiens, je crois 400 personnes.
Oui, c'était arrivé. Il faisait des spectacles dédiés à son livre, ouais. Dédiés pour les Français, pour les Espagnols, ouais. Pour les Italiens et comme ça. Et moi, quand j'avais vu ça, j'ai organisé effectivement un peu de pub et on était beaucoup.
Voilà. Et résultat, à la fin, vous buvez un café avec lui et lui aussi insiste sur le fait que vous devriez changer de métier.
Oui, alors il m'a dit, quand j'avais écrit beaucoup de choses sur le Messenger, sur Facebook, j'avais écrit, ah, pour l'Italie, tu dois dire ça, ça, c'est ça. J'avais écrit vraiment de temps de sketchs. Et lui, il m'a répondu, car il est une personne adorable, il m'a répondu, il m'a dit, mais Roberta, effectivement, avec tout ça, tu pourrais faire ton spectacle. Et il m'a dit, tu devrais faire un spectacle. Et c'était là, ça commençait effectivement le petit grain de dire, peut-être que tout le monde me le dit, peut-être que c'est vrai que je le dois faire.
Et vous n'y pensiez pas vraiment, même?
Non. J'ai pensé, déjà, mon français n'était pas encore top.
Oui.
Et déjà, faire rire, c'est plus difficile que de faire pleurer.
Oui.
Et de faire rire dans une autre langue, je ne pensais pas d'être vraiment capable.
Alors, vous avez ensuite observé la France. Et il y a une date qui n'a pas de rapport avec votre parcours, mais que j'ai relevée, parce qu'elle nous permet d'évoquer un sujet précis. Le 29 janvier 1951. À tout de suite sur Sud Radio avec Roberta Tchekin.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roberta Tchekin. On évoque votre parcours tout à fait atypique puisque vous avez commencé dans la banque et le marketing pendant des années avant de devenir humoriste. On évoquera tout à l'heure le 9 avril prochain où vous fêterez à Paris le jumelage Rome-Paris. Et puis, alors j'ai trouvé une date qui n'a pas de rapport avec vous, mais qui est important. Le 29 janvier 1951, un concours radiophonique en Italie devient un événement culturel incontournable parce qu'il devient le Festival de San Remo. Et ça, le Festival de San Remo, tout Italien ou toute Italienne le connaît.
Ah oui, nous, il y a une semaine maintenant, avant c'était fin janvier, maintenant c'est plus en février, et toute l'Italie s'arrête pour regarder San Remo et on parle que de ça.
Pourquoi?
C'est quelque chose lié à notre vraiment notre histoire. C'est pour dire que déjà c'est le festival de la chanson italienne. C'est vraiment une miroir de la société et c'est quelque chose qui ça existe depuis toujours. Et c'est un des premiers shows qui en télévision il a fait vraiment comment s'appelle l'auditel le maximum et beaucoup de chansons et beaucoup de chanteurs sont nés grâce à San Remo et c'est quelque chose qui est dans notre cœur.
Effectivement, tous les grands chanteurs des années 70 ont débuté à San Remo.
Oui, bah, c'était une scène presque internationale, car en plus, c'est une des premières émissions qui après, c'était en Eurovision et après en Mondovision.
Justement, et l'Eurovision, le Grand Prix Eurovision qu'on connaît aujourd'hui,
oui.
C'est la Suisse qui a pensé à s'inspirer du festival de San Remo en 54 pour créer en 56 le premier Grand Prix Eurovision où il y avait 7 pays, dont la Suisse, et la Suisse a gagné. Et c'est né de San Remo.
Oui, ça vient de San Remo. Et en Italie, c'est pas comme en France. En Italie, c'est le vainqueur du festival de San Remo qui participe automatiquement à l'Eurovision.
Alors, ça se passe comment ce festival? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de scènes, il y a une scène.
Alors, pour vous dire l'idée, ça fait de mardi à samedi.
Oui.
On commence à 18h avec Avanti Sanremo. Après, à 20h, ça commence l'émission, qui ça dure jusqu'à 1h du matin. Et après, il y a l'après-festival, comme ça, de 18h à 3h du matin. Il y a la, des émissions qu'on regarde. Et c'est de mardi à samedi. On a des hospitals, comme ça, des chanteurs internationaux qui viennent. Et après, c'est quelque chose, il y a l'Auditel,
oui.
L'Audimat le plus élevé de toute l'année. Et nous, surtout, on parlait de fait aussi pourquoi c'était très important pour nous. Il faut dire que quand on est des Italiens à l'étranger, on s'attache encore plus à ça. Et c'est regarder vraiment dans tous les italophones de tout le monde.
Voilà. Et il y a même des chanteurs français qui ont participé. Il y en a un qui a gagné, je crois, en 1969.
Sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre.
Antoine est une star en Italie avec Pietre et avec la Tramontane et au Festival de Sanremo.
Oui, mais après, il y a eu aussi Dalida qui avait participé.
Oui, mais Dalida, ça s'était passé de façon dramatique, parce qu'elle était venue aider son fiancé qui s'est suicidé à la fin.
Oui, Luigi Tenco, là, c'était effectivement, c'est marqué, mais c'est pour ça aussi qu'il y a un premio Luigi Tenco. C'est pour dire, c'est grâce à cause de bah lui, s'est suicidé.
En fait, Luigi Tenco était le fiancé de Dalida.
Oui.
Il oblige Dalida à venir à Sanremo. Elle voulait pas y aller, elle accepte. Et puis, il est éliminé
au début.
Donc il part foudrage dans sa chambre et il se suicide.
Oui, c'est arrivé ça. Dalida n'était pas vraiment chanceuse avec l'amour. Et c'est après ça que s'est né aussi le prime de la critique. C'est pour dire que la première de la critique, c'est pour dire qu'il n'y a pas que le vainqueur de populaire, mais c'est aussi pour donner des primes aussi sur la partie un peu plus technique et culturelle des chansons.
Et puis, il y a même une chanteuse, Patti Bravo, qui est une star en Italie, oui, dont Madonna s'est inspirée, je crois.
Oui, c'est Madonna, elle est en train de chanter la bambola, oui, en italien pour une pub de Dolce Gabbana. Oui. Mais il faut dire, moi j'adore Madonna, mais il n'y a pas de comparaison. Si vous allez écouter Patti Bravo, bah, il a une voix incroyable.
Il y a les chanteuses italiennes et les chanteurs italiens ont une voix particulière. Je crois qu'Umberto Tozzi va faire sa dernière tournée en France, oui, dans les semaines à venir. C'est vrai qu'il y a une particularité, une âme qui est très précise.
Oui, oui, après, on a, bah, c'est le pays de la lyrica, comme ça, nous, on a une tradition sur la chanson très, très fort.
Alors, il se trouve aussi qu'il y a la chanson, il y a l'amour, et je crois que la Saint-Valentin, qui est en France, bah, c'est autre chose en Italie.
Bah, alors, Saint-Valentin, c'est Saint-Valentino, c'était le son. C'est bien, vous me parlez de ce que j'adore, c'est raconter les histoires. Saint-Valentino, effectivement, c'était entre guillemets, un prêtre qui continuait à marier les amoureux,
oui,
même si l'empereur avait dit il faut arrêter car s'ils sont mariés, ils vont pas bien faire la guerre les hommes. Alors, ouais. Saint-Valentino a été tué pour ça, et c'est pour ça que c'est devenu le patron des amoureux. Mais c'est vrai que la tradition romantique, c'est né grâce à la France. Comme ça, c'est un son italien qui a été sublimé en façon romantique grâce à la France.
Et puis, il y a aussi l'italien qui parle avec les mains. Ça, c'est une tradition. Et là aussi, c'est quelque chose que dont vous pouvez parler.
Nous, on ne peut pas. Alors là, c'est pour ça que je faisais comme ça.
Oui, car, vous mettez les mains sur le micro.
Autrement, je parle beaucoup avec les mains. C'est normal, en Italie, on est habitué à ça, vu que l'Italie, c'est un pays très jeune. Aujourd'hui, oui, en plus, c'est pour dire, en ces jours, il y a la 165 ans de l'Italie, oui, on est très jeune comme pays, oui, et il y avait beaucoup de langues différentes, et c'est pour ça que pour communiquer, on utilisait les gestes, et les gestes, effectivement, c'est pour ça que c'est un langage en Italie.
Oui, mais vous parliez de Dalida, moi je me souviens de Dalida et Orlando en public, lorsqu'ils s'insultaient l'un l'autre, c'était en italien, et quand on parle en italien, quand on s'insulte, ben c'est pas vraiment des insultes, c'est on parle.
Oui, c'est ça. C'est ça. Après, ce que je peux dire, c'est que quand on parle une langue étrangère, si on doit insulter quelqu'un, ça part tout de suite à notre langue maternelle.
Voilà. C'est vrai qu'en Italie, on a l'impression quelquefois qu'on est énervé, alors que c'est juste une façon un comportement.
Oui, nous, on parle très fort, on parle très vite, et ça, pour nous, c'est la passion, et souvent, en France, c'est considéré comme de l'agressivité, mais pas du tout.
Ah, il y a aussi une chanson française qui évoque l'Italie.
Elle va mourir là,
la chanson chanson Charles Aznavour, La Maman, vous la connaissez pas?
Ah non?
Ah, c'est une de ses plus célèbres chansons, d'ailleurs. Les humoristes disaient depuis le temps qu'elle va mourir, elle n'est toujours pas morte. Ça a été un gros succès en France et en Italie. Et c'est vrai que La Maman italienne, c'est aussi une légende.
Ah, c'est une légende, mais c'est vrai. La Maman, pour nous, c'est vraiment le patrimoine chacun. La Maman, c'est vraiment le cœur de la famille et de la société italienne, je le peux dire.
Voilà.
C'est vrai.
Mais la Maman, et justement, ça n'a rien à voir avec une maman française. Elle est très attachée à son fils ou à sa fille.
Alors, c'est vraiment l'éducation, c'est un peu différent. En français, c'est beaucoup plus sous l'autonomie. La maman italienne, c'est beaucoup plus dans la protection, de le suivi et toujours hai mangiato. Ça, c'est ça veut dire tu as mangé. Ça, voilà. C'est la phrase que toutes les mamans italiennes, tu demandes pas si la première chose est-ce que tu as mangé.
Ça,
c'est,
vous avez connu ça, vous?
Alors, ma mère, c'est un des premiers. Ma mère me demande si j'ai mangé et si j'ai dormi, car moi, je suis un petit peu hyperactive et comme ça, parfois, je ne me repose pas trop.
Alors, justement, la nourriture italienne, les pâtes italiennes, bon, ça fait partie aussi de la légende.
Oui, c'est les pâtes. Les pâtes sont nées en Italie, pas en Chine, comme on dit. Et c'est vrai que c'est la base de notre nourriture. Et ce qui c'est bizarre aussi entre la France et l'Italie, c'est qu'en Italie, on disait les pâtes, c'était la nourriture de la dimanche. C'est pour dire les lasagnes, comme ça. Et quand je suis arrivée en France, j'ai découvert qu'ici, les pâtes, c'est considéré le déjeuner des pauvres ou des étudiants.
Voilà.
Et nous, oui, on a une typologie des pâtes, que c'est la pasta al tonno, que c'est pour les étudiants. Mais la pasta, pour nous, c'est pas un plat des pauvres. Maintenant.
Voilà. En même temps, par exemple, les coquillettes n'existent pas en Italie.
Non, ça n'existe pas en Italie, les coquillettes.
Et il y a une chose très importante en Italie, c'est qu'on ne coupe pas les spaghettis.
Oui, on ne coupe pas les spaghettis et c'est pas qu'on est des fous. C'est que quand, déjà, si vous voulez des pâtes courtes, il y en a beaucoup.
Oui.
Il y en a beaucoup plus de 300 typologies de pâtes en Italie. Et les spaghettis, on ne les peut pas couper car déjà, si on les coupe, les sauces qui vont avec, il n'y a pas de sens.
Mais donc on les tourne avec la fourchette, c'est un apprentissage obligatoire en Italie.
Bah, ça devient, comme pour vous, vous donnez les voyelles nasales, c'est facile.
Oui.
Autant pour nous de manger les pâtes avec les spaghettis.
Alors je crois aussi...
Avec la fourchette.
Avec la fourchette. Roberta Tchekin, je crois aussi que dans les desserts, il y a des choses. Par exemple, les profiteroles, en France, on les mange avec de la glace. Et en Italie, avec la crème pâtissière. Je ne sais pas si vous le savez.
Exactement. Non, mais oui, je le sais.
Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
Alors, ça, c'est des traductions. Ce n'est pas ça. Après, je suis plus experte de tiramisu que de profiteroles.
Voilà. Et puis, il y a les glaces. Les glaces italiennes n'existent pas, en fait.
Oh, le glace à l'italienne, voilà. Avec le petit truc comme ça. Ouais. Moi, j'ai découvert en France qui s'appelle le glace à l'italienne, effectivement. Mais c'est pas...
Parce que les glaces italiennes, c'est autre chose. Moi, je me souviens de mes jeunes années où en France, on n'avait pas de bonnes glaces. Sont arrivées des marques très précises. On a commencé à manger des glaces italiennes, ce qui était un événement. Mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les glaces italiennes?
Le glace, c'est déjà c'est né en Italie grâce à Marco Polo, oui. Et après c'est arrivé en France grâce à Caterina de Médicis. C'est tout fait en façon naturelle. On utilise des ingrédients naturels et après c'est de glace en général artisanale. Et ce que je peux dire aussi, que nous on fait des glaces comme ça. Quand tu mets de glace chez nous, c'est pas avec la petite boule,
oui.
On met beaucoup. Ça c'est aussi plus grande.
Et en même temps, ça prouve que ça se consomme très bien et on n'est pas malade après avoir mangé une glace comme ça.
Ah non, ça c'est sûr.
Alors, je crois que, et vous en êtes très fiers, la cuisine italienne est rentrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.
Oui, on est très fiers de ça, c'est de la cuisine italienne en général. Dès qu'il y avait eu ça, tout le monde a parlé de ça, le fait. Après, il y a toujours... dans mon spectacle, dans tout ce que j'ai fait dans mon activité artistique, je cherche de faire comprendre les choses et de dire tout le temps l'Italie et la France, on est en train de dire qui est meilleur et qui est... Par exemple, sur la cuisine, sur ça, quand s'est sortie cette nouvelle, tous les Italiens ont dit « oui, on est meilleur de la France ». Il y a toujours cette dualité entre la France et l'Italie et moi, je cherche de créer un pont.
Oui, car tout ce que je dis là, c'est dans votre spectacle, vous en parlez, mais et c'est aussi sur Internet. D'ailleurs, vous avez sur Instagram, vous passez des informations comme ça en permanence.
Oui, c'est ce que je cherche de faire. Je cherche de mélanger entre les informations plus culturelles et effectivement de l'humour. Je cherche toujours de faire ça.
Et il faut savoir que la France, quand même, la gastronomie française est rentrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors là, ça a été Nicolas Sarkozy à l'époque, qui est président de la République, qui a poussé ça. Des cuisiniers comme Guy Savoy l'ont soutenu. Donc la France et l'Italie sont sur le même plan de ce côté-là.
Oui. Moi, je dis toujours qu'ensemble, on est les meilleurs du monde pour la cuisine.
Alors, il y a un problème quand même en France que vous connaissez, je crois, Roberta Chekine, c'est que les départements, les numéros des départements, c'est un véritable problème. Quand vous êtes en tournée, c'est un vrai souci.
Moi, je ne les connaissais pas, effectivement. J'ai découvert que tous les Français connaissent ça. Et nous, on a des sigles, c'est plus simple, effectivement. Là, c'est toutes des choses, effectivement, que j'ai fait sur Internet. Dans mon spectacle, en réalité, je cherche vraiment de donner les deux points de vue d'Italiens et des Français pour essayer de se mieux comprendre.
Voilà, et justement, vous évoquez des expressions françaises que vous ne comprenez pas, comme par exemple, être sur son 31, c'est une expression qui vous choque.
Oui, c'était tout ça, c'est effectivement surtout dans Internet, dans mon spectacle, je vais sur des choses beaucoup plus culturées et dans la vie de tous les jours, effectivement.
C'est ça qu'être sur 131, personne n'y pense, c'est pas logique.
C'est pas logique, effectivement. Moi, j'ai pensé qu'en plus c'était sur le 31. Après, j'adore découvrir pourquoi. Et là, j'ai découvert effectivement que c'est une typologie. C'était un tissu qui s'appelle 30 ans et qui s'est devenu le 31.
Voilà. Mais vous voyez, vous connaissez mieux la France quelquefois que certains. Et la culture française tout en étant italienne.
Oui, car mon spectacle, je le change dans chaque ville et j'étudie chaque ville, l'histoire est comme ça et c'est pour ça qu'effectivement après presque 50 villes en France que j'ai fait, je connais les patrons, les saints patrons, je connais la nourriture et je connais les villes.
Voilà, ce spectacle, on va en parler comme de beaucoup d'autres à travers la date du 9 avril 2026. A tout de suite sur Sud Radio avec Roberta Chekine.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Roberta Chekine. Effectivement, on a beaucoup parlé de votre parcours de marketing en italien, le fait que vous ayez appris le français, que vous ayez commencé à faire vos spectacles via Internet, d'ailleurs, à commencer à vous roder au spectacle via Internet. Et puis le 9 avril 2026, il y a une soirée de jumelage, Rome-Paris. C'est vraiment l'histoire d'amour, seul Rome est digne de Paris, seul Paris est digne de Rome. Oui. Et puis la formule de Corneille, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Et ce soir-là, vous êtes au grand point virgule.
Oui, je suis très contente car le point virgule a toujours un peu accompagné ma carrière d'artiste. Car la première fois que j'ai joué au Petit Point Virgule, c'était en juillet 2020. C'est qu'effectivement, j'ai commencé avec la pandémie, pendant la pandémie. Et après, j'ai fêté mon 5e en Point Virgule. Et là, j'ai fait le jumelage Rome-Paris et je suis très contente.
Qu'est-ce que c'est que cette soirée?
La soirée de neuf. Alors, mon spectacle, c'est un spectacle qui est un voyage interculturel entre l'Italie et la France, que j'adapte dans chaque ville. Et il y a toujours une partie liée au la ville ou à des événements particuliers. Et ces jours-là, j'adapte le spectacle, je vais intégrer des éléments sur le jumelage, que c'est le jumelage unique au monde, car c'est l'unique jumelage exclusif entre deux villes.
Ah bon?
Oui.
Et donc vous le traitez à votre façon en humoriste?
Je vais expliquer pas mal de choses. Il y a des liens, en réalité, qui viennent de très loin. Rome et Paris ont toujours été liés. Parfois, on oublie que Lutetia, Paris, ça a été dans l'Impero Romano, et que Rome, en 1809, a été annexé à l'Impero francese. Comme ça, il y a eu une histoire très longue, mais le jumelage, pour l'instant, il a 70 ans.
Veut dire beaucoup de travail pour préparer chaque spectacle?
Oui, j'adore étudier, j'adore apprendre et transmettre ce que j'ai appris, et toujours, comme on disait au début, avec l'humour.
Alors, ce spectacle, Roberta in Parigi, c'est né au départ à l'école des one-man shows à Paris. Parce qu'un jour, vous avez dit, allez, je vais essayer.
C'était grâce à Olivier Giraud, qui effectivement m'avait conseillé de faire cette école. Et comme je disais, c'était au début, je ne pensais pas d'être capable de faire de l'humour. Et c'est vrai qu'on apprend à faire de l'humour. Et comme ça, j'ai fait 3 ans d'école, effectivement.
Tout en travaillant à la banque.
Oui.
Mais d'accord, il savait à la banque que vous faisiez une école de l'humour?
Ah bah oui, c'est mes collègues sont mes premières fans.
Donc vous avez commencé à écrire, à tester et à comprendre comment on écrivait un sketch, comment on le jouait.
Oui, c'est vraiment, il y a des techniques de l'humour, d'écriture. Déjà, on ne rigole pas dans la même façon. Les techniques aussi, c'est pas la même chose en italien ou en français. On ne rigole pas dans les mêmes choses. Il y a beaucoup de références et ça a été très important de faire cette école.
Vous commencez donc à raconter votre quotidien, à raconter les différences culturelles entre Paris et l'Italie. Ça, c'est votre point de départ de ce spectacle.
Oui, car ma vie, c'est entre l'Italie et la France. C'est comme ça, le point de départ, c'est effectivement... C'est pour ça que le spectacle s'appelle Una Roberta Parigi depuis le début. Et après 2 ans que j'ai commencé à faire beaucoup de tournées, ça est devenu Una Roberta débarque à... Comme ça, à Paris, c'est Una Roberta à Parigi, et hors Paris, c'est Una Roberta débarque à Lille. Voilà. Comme ça.
Et justement, Lille, c'était, je crois, le point de départ de votre tournée.
Oui, c'était la première fois que j'ai commencé le spectacle, à jouer dans le spectacle en février 2022. Et en juin 2022, j'étais déjà en tournée à Lille, car le patron du théâtre, il avait entendu une émission radio au GPC. Et m'avait invité.
Parce qu'en plus, personne n'avait fait ça, c'est-à-dire un spectacle d'humour sur l'Italie et sur la France.
C'était, il y avait eu des autres artistes italiens qui avaient essayé effectivement de faire ça, mais il n'y a pas eu en continuité.
Alors, il se trouve que ce spectacle, vous l'avez créé petit à petit, celui qui est aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui était en 2022.
On peut dire ça. On peut dire que, alors déjà, le spectacle, il a beaucoup évolué. Mais surtout, moi, comme artiste, car j'avais fait 3 ans d'école, mais après, j'ai fait 2 Avignon aussi, que c'est une grande école aussi. Et j'ai appris beaucoup. Il n'y a rien comme la scène qui apprendre à faire de la scène.
Oui, en même temps, le concept de départ est resté. C'est-à-dire qu'une Italienne qui observe les Français et Paris qui raconte. Ça, c'est venu tout de suite, le concept.
Oui, ça, c'était moi. Comme ça, c'était effectivement. C'est ma nature, effectivement, d'observer et de chercher de donner des points de vue et toujours, comme je disais, de créer des ponts entre les deux cultures.
Vous avez pris un risque au départ parce que vous ne saviez pas si ça allait marcher.
Alors en réalité au départ c'était plus un besoin. Quand j'étais en Italie, j'étais des courses, j'étais prof à l'université comme ça. Et après, en France, j'avais jamais eu cette possibilité de transmettre ce que j'avais appris. Ça, c'était vraiment un besoin de partager que c'était arrivé. Et c'est vrai que sous le risque, je le prends toujours, car quand je vais dans une ville et j'écris dans la journée 20 minutes de spectacle que je vais jouer la soirée, c'est pas un texte testé. Et comme ça, prendre des risques, c'est un peu mon quotidien.
Oui, mais en même temps, écrire 20 minutes et les apprendre dans la journée, c'est pas facile.
Alors, c'est vrai que je fais toujours un prémisse quand je commence la partie improvisée sur la ville. C'est que je dis toujours, alors, si en ces moments-là, vous n'êtes pas en train de tout comprendre, c'est que tout ce que je suis en train de faire, je l'écris aujourd'hui après l'expérience dans votre ville. Mais vous inquiétez pas, le reste du spectacle, c'est bien écrit, vous allez tous comprendre.
Alors, au départ, quand vous faites ces premiers spectacles au petit point virgule, vous travaillez toujours à la banque, vous ne comptez pas changer de métier.
Non, effectivement, c'est quelque chose qui je suis une personne qui fait beaucoup de choses et arrive à faire effectivement plusieurs métiers dans le même moment.
Mais en même temps, c'était pas évident, ça pouvait très bien ne pas marcher. Vous seriez retourné à la banque si ça n'avait pas marché.
Je pense d'avoir beaucoup de flèches à mon arc pour faire plusieurs choses, car au-delà des spectacles, je fais des conférences comme ça et c'est vrai que pour l'instant. Ça marche, comme ça, on va voir fur et à mesure, effectivement, ce que je vais faire.
Je crois que vous avez fait 215 spectacles depuis 2022.
De ces spectacles-là, oui. Après, il y a des autres spectacles que j'ai fait, mais c'est comme ça. Et dans 7 pays, en plus.
Alors, il se trouve, oui, parce que vous avez travaillé dans plusieurs pays, on vous demande d'aller dans d'autres pays.
Non, c'est que j'ai fait mon spectacle en France. Après, le deuxième pays, ça a été la Tunisie. Et après, j'ai fait mon spectacle en italien, en français. Après, c'est arrivé la Suisse, le Luxembourg, la Belgique et j'ai fait le Sénégal aussi.
Et à chaque fois, on vous a appelé en disant « Tiens, c'est original, on n'a jamais vu ça ».
Alors, ce que ça plaît beaucoup, c'est le fait que j'ai dit des choses qu'ils ont jamais entendues. Car quand beaucoup d'humoristes adaptent le spectacle à les villes, mais ils regardent des choses qu'il y a sur Internet, ou disent les blagues qu'un peu tout le monde fait. La différence que j'ai fait, c'est que je vais vivre la chose, et ce que ça passe, c'est l'authenticité de ce que j'ai vu.
Alors, tout a commencé, je crois, sur des petites scènes, le Comedy Club, et un jour, vous vous êtes dit, mais au fond, il y a des Comedy Club en France, mais il n'y a rien sur l'Italie.
Oui, il y avait des comedy clubs en russe, en anglais, en espagnol, et j'avais pas vu de comedy club et des comedy shows en italien.
Donc vous avez décidé de lancer ça en France?
J'ai lancé en septembre 2022, le 22 septembre 2022, en plus c'est une date, le Divina Comedy Show avec un collègue qui est artiste, qui est italien, et on a lancé effectivement cette première plateau en italien de France.
Mais alors qui est le public? Ce sont des Italiens?
Ce sont des Italiens, mais aussi des Français qui parlent italien. Et au début, on avait aussi des Français qui ne parlaient pas italien, mais qui adorait l'Italie, écoutait l'italien et venait sans rien comprendre, me disait, ah oui, mais déjà écouter l'italien, c'est tellement beau.
Moi, un jour, je suis allé voir un spectacle à Montréal avec un humoriste québécois, je n'ai pas compris un seul mot. Toute la salle riait, c'est très différent, mais là, c'est peut-être plus facile en italien qu'en québécois.
Alors, je peux dire que moi, ça m'arrive encore, cette situation avec même le français que je parle bien, car comme on disait, c'est beaucoup des références, pas seulement l'accent. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je vous donne une technique, Jacques, je me mets jamais au premier rang quand je vais à un spectacle d'humour en France. Car parfois, je comprends rien et je regarde et dire, vous avez dit quoi. Mais la règle pour tout le monde, c'est de rigoler pendant que les autres rigolent. Je dis toujours ça aussi.
Alors, ce qu'on ne sait pas en France, c'est qu'il y a beaucoup d'humoristes italiens très célèbres dans votre pays natal.
Alors, c'est que, comme moi, par exemple, je connaissais pas Florence Foresti quand je suis arrivée en France, les Français ne connaissent pas les humoristes italiens. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de communautés italiennes, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'espace aussi pour faire des spectacles en italien en France.
Alors, vous avez fait venir Luca Ravenna, Eduardo Ferrario, Michaela Giraud, personne ne les connaît en France.
Oui, mais les Italiens les connaissent très bien.
Et donc ils ont accepté de venir en France pour faire une soirée?
Alors ils m'ont demandé d'organiser quelque chose en France pour faire le spectacle. Après, maintenant il y en a de plus en plus et c'est vrai que effectivement sur l'humour, vu que la traduction c'est pas simple comme l'humorisme de le traduire. C'est pas seulement une traduction littérale. Et c'est vrai qu'avoir un humour dans ta langue, quand tu es à l'étranger, c'est quelque chose qui... Moi, quand je joue en français en Italie, il y a des Français qui viennent de toute l'Italie pour me voir.
Alors, qu'est-ce que c'est l'humour italien? Est-ce que ça ressemble à l'humour français? Comment on le caractérise?
Alors, c'est un peu différent. C'est pour dire qu'en Italie, on ne rigole pas de tout. Comment en France, c'est pour dire déjà l'humour noir c'est beaucoup moins répandu en Italie qu'en France, et après on a il y a la culture catholique qui freine aussi.
Qu'est-ce qui fait rire? Ce sont les blagues sur les Romains, sur les Milanais? Qu'est-ce qui fait rire?
Il y a toujours, ça dépend, il y a beaucoup d'univers, comme il y a des univers en France, des différents... il y a beaucoup moins de... Par exemple, en France, il y a beaucoup de jeux de mots, les contre-pétris, c'est une tradition qu'on a en France, il n'y en a pas autant en Italie, par exemple, ça n'existait pas.
Donc c'est un humour beaucoup plus gentil qu'en France?
On pourrait dire ça sur certains sujets. Par exemple, il y a personne en Italie qui ferait des blagues sur le petit Grégory. Ça, c'est sûr. Mais c'est quelque chose vraiment un peu, c'est très difficile de le synthétiser dans quelques mots.
Alors, il se trouve que maintenant, votre but, c'est de créer justement un pont entre l'Italie et la France. Un pont culturel.
Oui, c'est un peu ça, car souvent quand ils me disent « Ah, tu es une artiste étrangère en France », on a beaucoup, on a des Américains, on a des Portugais, on a beaucoup d'artistes étrangers qui parlent de l'Italie, qui parlent de leur pays et de la France. La différence, c'est qu'effectivement, l'Italie et la France sont très proches, on ne se connaissent pas, et on est toujours en train de se taquiner. Et ce que je cherche de faire, c'est que je cherche de nous faire connaître plus, car ensemble, vraiment, on est hyper complémentaires, et je cherche d'être vraiment cette passerelle culturelle entre les deux pays.
Et de créer justement des spectacles, des concerts qui permettraient aux deux pays de se réunir.
C'est ce que j'ai fait dans mon quotidien. J'ai fait plusieurs... alors, je suis de plus en plus visible. Et comme ça, effectivement, j'ai des artistes qui parfois me contactent pour faire des choses. Et en janvier, effectivement, j'ai une trio musicale qui m'ont contacté pour créer un spectacle. Et j'ai créé un spectacle qui s'appelle Una Roberta de Bach and Jazz. Et c'est de musique italienne jouée. Et moi, j'ai créé de liens entre les différents morceaux musicaux. Et on va le jouer surtout dans les instituts italiens de culture dans le monde.
Et votre expérience de management, de marketing, vous sert dans ces cas-là?
Ben, ça me sert surtout pour la communication et pour créer effectivement des liens et de, c'est vrai que ça me permet effectivement de retourner à le sujet que vous me disiez, du fait que j'arrive à faire plusieurs choses dans le même moment, car c'est une très forte organisation et aussi l'écriture en continuité, ça arrive d'une discipline très forte qui s'arrive de mon expérience de manager.
Et justement, aujourd'hui, donc, il y a la scène, il y a la production d'artistes étrangers. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine et qui n'était pas évident, que vous n'auriez jamais imaginé au début.
Non, je fais pas vraiment de la production, je soutiens la diffusion.
Voilà.
Je suis pas productrice, je voudrais pas que. Mais c'est vrai que si quelqu'un a besoin ou veut organiser quelque chose sur l'Italie et la France, a besoin d'artistes, une idée de un événement, et a besoin effectivement d'une offre culturelle entre l'Italie et la France, il me peut contacter et je suis à disposition.
Là où non plus ça n'existait pas jusqu'à ce que vous arriviez.
À ma connaissance, non, mais c'est vrai que maintenant je suis là, comme ça, à disposition.
Et vous serez le 9 avril et puis de nouveau le 3 juin, car il y a deux soirées pour le jumelage Rome-Paris.
Exactement, au Grand Point Virgule, avec une Roberta à Parigi, édition spéciale Rome-Paris. Et après, je serai aussi à Rome, car c'est l'unique spectacle d'humour du catalogue choisi par la mairie de Paris et la mairie de Rome. Comme ça, je suis
donc,
très flatté.
Le jumelage existe et c'est unique, effectivement. Et ben, bravo Roberta Schekin, et continuez comme ça, parce que effectivement, le rapprochement n'est pas toujours facile, mais s'il est par l'humour, c'est encore plus fort.
Je suis totalement d'accord. Et merci à vous pour l'invitation.
Merci. Donc rendez-vous au 9 avril et au 3 juin au Grand Point Virgule. Et puis les dates qui suivront dans toute la France. Merci Roberta Schekin. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
Grazie. Ciao a tutti.